Le récit que vous vous apprêtez à écouter est celui que fit le Genevois Horace Bénédict de Saussure de son ascension du Mont Blanc à l'été 1787, récit qu'il publia en septembre de la même année. La première avait été réalisée l'été précédent. Voyage à la cime du Mont Blanc. Divers ouvrages périodiques ont appris au public qu'au mois d'août de l'année dernière, deux habitants de Chamonix, M. Paccard, docteur en médecine, et le guide Jacques Balma parvinrent à la cime du Mont Blanc qui jusqu'alors avait été regardée comme inaccessible. Je le sus dès le lendemain, et je partis sur le champ pour essayer de suivre leurs traces. Mais il survint des pluies et des neiges qui me forcèrent à y renoncer pour cette saison. Je laissai à Jacques Balma la commission de visiter la montagne dès le commencement de juin et de m'avertir du moment où l'affaissement des neiges de l'hiver la rendrait accessible. Jacques Balma fit dans le mois de juin deux tentatives inutiles. Cependant, il m'écrivit qu'il ne doutait pas qu'on ne pût y parvenir dans les premiers jours de juillet. Je partis alors pour Chamonix. Je rencontrai à Sallanches le courageux Balma qui venait à Genève m'annoncer ses nouveaux succès. Il était monté le 5 juillet à la cime de la montagne avec deux autres guides, Jean-Michel Cachat et Alexis Tournier. Il pleuvait quand j'arrivai à Chamonix et le mauvais temps dura près de 4 semaines. Mais j'étais décidé à attendre jusqu'à la fin de la saison plutôt que de manquer le moment favorable. Il vint enfin ce moment si désiré, et je me mis en marche le 1er août, accompagné d'un domestique et de 18 guides qui portaient mes instruments de physique et tout l'attirail dont j'avais besoin. Quoiqu'il y ait à peine 2 lieues et 1 quart en ligne droite du prieuré de Chamonix à la cime du Mont Blanc, cette course a toujours exigé au moins 18 heures de marche, parce qu'il y a de mauvais pas, des détours et environ 1920 toises à monter. On commence par suivre le chemin qui conduit au village des Buissons, et l'on prend là le sentier qui va au glacier de ce nom. On tire à droite, et l'on va passer au hameau du mont. Un peu au-delà du mont, on commence à monter, en suivant les bords du torrent qui sort du glacier de Taconnet. Cette montée est très sauvage, au fond d'un vallon étroit dans lequel on a en face le glacier de Taconnet, hérissé de glaçons, non pas blancs et purs comme ceux des Buissons, mais salis par une boue noire et entrecoupés de rochers de la même couleur. Mais en continuant de s'élever, on découvre, au-dessus de ce glacier, les neiges pures et escarpées du dôme du Goûter. Bientôt après, on s'élève un peu au-dessus du glacier de Taconnet. On passe là quelques mauvais pas, puis on rencontre une fontaine d'une eau claire et fraîche, où les guides, déjà fatigués de leur fardeau, prirent avec beaucoup de plaisir quelques moments de repos. On se rapproche ensuite du glacier. On grimpe par une pente rapide sur la moraine dont on suit pendant quelque temps l'arête, après quoi on s'éloigne pour toujours en s'élevant sur la montagne à gauche. Une demi-heure après avoir quitté le glacier, on arrive au pied d'un rocher presque à pic, assez élevé, qui barre un couloir étroit et profond. On ne peut sortir de ce couloir qu'en escaladant ce rocher. Ce passage se nomme le Mapa, ou le Mauvais Pas. On avait placé là une échelle, dans l'idée que j'en aurais besoin, mais comme je craignais de donner à mes guides mauvaise opinion de moi si je m'en servais, je passais à côté de l'échelle sans y toucher. Au-delà du Mapa, on est obligé de passer par quelques corniches étroites sur des escarpements élevés. On longe ensuite une arête tranchante avec le précipice à droite et des prairies très rapides à gauche, après quoi l'on gravit par une pente de 50 degrés à une grotte ou petite caverne où je couchais le 20 août 1786, lorsqu'immédiatement après le voyage du docteur Paccard, j'essayais, en suivant ses traces, d'aller à la cime du Mont Blanc. Mais il survint pendant la nuit une pluie horrible qui tombait en neige sur les hauteurs, il fallut revenir tristement sur mes pas et remettre la partie à l'année suivante. De grands blocs de rochers à angles vifs, singulièrement et hardiment entassés, couronnent la cime de cette arête et offrent l'aspect le plus bizarre et le plus sauvage. La belle et riante paroisse des Ouches semble partagée par ces rochers stériles et forme avec eux un étonnant contraste. L'un de ces blocs, dont un angle saillant se projette fort en avant au-dessus du précipice, se nomme à cause de cela le bec à l'oiseau. On raconte qu'un berger qui avait gagé d'aller s'asseoir sur la pointe de ce bec y parvint et s'y assit. Mais un faux mouvement qu'il fit en se relevant lui fit perdre l'équilibre, il tomba et fut tué raide sur la place. Il était midi quand nous arrivâmes sur cette arête. J'y fis une halte d'une demi-heure pour laisser dîner mes guides. Pendant ce temps-là, je m'amusais à voir sous mes pieds, à une grande profondeur, des étrangers qui traversaient péniblement, en se soutenant sur leurs guides, le plateau inférieur du glacier des Buissons, et qui se disposaient vraisemblablement à faire à leur retour un récit pompeux de leur courage et des dangers qu'ils avaient courus. Après avoir traversé cette arête, nous continuâmes à monter obliquement entre le glacier des Buissons et la cime de cette même arête. nous passâmes au-dessus d'une profonde caverne où Jacques Balma, dans son précédent voyage, avait caché l'échelle qui devait nous aider à traverser les crevasses du glacier et une perche de sapin dont nous devions aussi nous servir dans les mauvais pas. On retrouva l'échelle, mais la perche avait été dérobée. Il est singulier qu'il y eût là des voleurs. On ne peut pas dire cependant que ce fussent des voleurs de grand chemin. Nous arrivâmes à 1h15 à la cime de la montagne de la côte, dans l'endroit où nous devions passer la nuit. Ce gîte était un amas de grands blocs de granit entre lesquels mes guides espéraient de trouver un abri, et où le docteur Paccard et Jacques Balma avaient couché le premier soir de leur expédition. Ces blocs ont été charriés là par le glacier qui en est tout proche et que l'on doit traverser pour s'acheminer à la cime du Mont Blanc. C'est là que l'on quitte la terre ferme et que l'on s'embarque sur les glaces et sur les neiges jusqu'à la fin du voyage. On préfère traverser ainsi le glacier le matin pendant que les neiges sont encore dures. Le passage est beaucoup plus dangereux le soir, lorsque la chaleur du jour les a ramollis. C'est ce qu'éprouva Maricouté, sous lequel la neige s'enfonça quand il alla reconnaître le passage que nous devions faire le lendemain. Heureusement, il demeura suspendu aux cordes qui le liaient à deux de ses camarades qui l'avaient accompagné. À leur retour, nous fûmes tous empressés à leur demander compte de leur expédition, comme on demande à ses espions des nouvelles de l'armée ennemie. Maricouté raconta fort tranquillement et même gaiement son aventure. Malgré cela, son récit répandit une teinte sombre sur les physionomies. Les plus graves en plaisantèrent, mais les autres parurent trouver ces plaisanteries un peu froides. Cependant, personne ne parla de s'en retourner, et au contraire, chacun s'occupa à chercher un abri pour passer la nuit. Les uns regagnèrent mon ancien gîte, où ils espéraient d'être plus chaudement, d'autres se nichèrent entre des blocs de granit. Pour moi, je couchais sous ma tente avec mon domestique et deux ou trois de mes anciens guides. Le lendemain, 2 août, malgré le grand intérêt que nous avions tous à partir de bon matin, il s'éleva tant de difficultés entre les guides sur la répartition et l'arrangement de leurs charges que nous ne fûmes en pleine marche qu'à 6h30. Chacun redoutait de se charger, moins encore par la crainte de la fatigue que dans celle d'enfoncer la neige par son poids et de tomber ainsi dans une crevasse. Nous entrâmes sur le glacier vis-à-vis des blocs de granit à l'abri desquels nous avions dormi. L'entrée en est très facile. Mais bientôt après, l'on s'engage dans un labyrinthe de rochers de glace séparés par de larges crevasses, ici entièrement couvertes, là comblées en tout ou en partie par des neiges qui souvent forment des espèces d'arches, évidées par-dessous, et qui cependant sont quelquefois les seules ressources que l'on ait pour traverser ces crevasses. Ailleurs, c'est une arête tranchante de glace qui sert de pont pour les traverser. Dans quelques endroits où les crevasses sont absolument vides, on est réduit à descendre jusqu'au fond, et à remonter ensuite le mur opposé par des escaliers taillés avec la hache dans la glace vive. Mais nulle part on n'atteint ni ne voit même le roc. Le fond est toujours neige ou glace, et il y a des moments où, après être descendu dans ces abîmes, entouré de murs de glace presque verticaux, on ne peut pas se figurer par où l'on en sortira. Cependant, tant qu'on marche sur la glace vive, quelque étroite que soient les arêtes, quelque rapide que soient les pentes, ces intrépides chamoniards dont la tête et le pied sont également fermes, ne paraissent ni effrayés ni inquiets. Ils causent, rient, se défient les uns les autres. Mais quand on passe sur ces voûtes minces, suspendues au-dessus des abîmes, on les voit marcher dans le plus profond silence, les trois premiers liés ensemble par des cordes à 5 ou 6 pieds de distance l'un de l'autre, les autres se tenant deux à deux par leurs bâtons, les yeux fixés sur leurs pieds, chacun s'efforçant de poser exactement et légèrement le pied dans la trace de celui qui le précède. Ce fut surtout quand nous eûmes vu la place où Maricouté s'était enfoncé que ce genre de crainte augmenta. La neige avait manqué tout à coup sous ses pas, en formant autour de lui un vide de 6 à 7 pieds de diamètre et avait découvert un abîme dont on n'apercevait ni le fond ni les bords. Et cela, dans un endroit où aucun signe extérieur n'indiquait la moindre apparence de danger. Aussi, lorsqu'après avoir franchi quelques-unes de ces neiges suspectes, la caravane se retrouvait sur un rocher de glace vive, l'expression de la joie et de la sérénité éclaircissait toutes les physionomies. Le babil et les jactances recommençaient, puis on tenait conseil sur la route qu'il fallait suivre, et rassuré par le succès, on s'exposait avec plus de confiance à de nouveaux dangers. Nous mîmes ainsi près de 3 heures à traverser ce redoutable glacier, quoiqu'il ait à peine un quart de lieue de largeur. Dès lors, nous ne marchâmes plus que sur des neiges, souvent très difficiles par la rapidité de leurs pentes, et quelquefois dangereuses, lorsque ces pentes aboutissent à des précipices. Mais où du moins, l'on ne craint d'autre danger que celui que l'on voit, et où l'on ne risque pas d'être englouti sans que la force ni l'adresse puissent être d'aucun secours. En sortant du glacier, on est obligé de gravir une de ces pentes de neige extrêmement rapide, après quoi l'on vient passer au pied du rocher le plus bas et le plus septentrional d'une petite chaîne de rochers isolés au milieu des glaces du Mont Blanc. Cette chaîne, du côté de l'est, est séparée de l'aiguille du Midi et des montagnes qui lient cette aiguille avec le Mont Blanc par un glacier extrêmement sauvage et presque tout composé de séracs. Nous nous reposâmes quelques moments à l'ombre de ces rochers. Nous nous éloignâmes ensuite du côté du couchant, puis nous revînmes l'aborder dans l'endroit où, l'année précédente, j'avais fait construire une cabane. C'était alors mon dessein d'y coucher en montant. Mais cette station avait été mal choisie. Elle était beaucoup trop voisine de la première. Ainsi, il serait resté 900 toises à monter pour le troisième jour. Plus haut, cette chaîne est fréquemment interrompue par des neiges. Les pointes de ces rochers sortent comme de petites îles ou comme des écueils de la mer de neige qui couvre toutes ces régions. Mes guides me firent perdre là un temps considérable, sous le prétexte de déjeuner et de se reposer. Leur intention était de retarder assez notre marche pour que l'on ne pût pas, avant la nuit, s'aventurer dans la partie de la route où l'on ne rencontrerait plus de rochers et où l'on serait obligé de coucher sur la neige. Nous ne repartîmes qu'à 11 heures, quoique nous fussions arrivés peu après 9. Je trouvais encore la Dispensia Helvetica en fleurs sur ces rochers. Nous avions de là entrevu le lac au travers de la vallée d'Abondance depuis les premiers rochers. Mais en continuant de monter, on le découvrait toujours mieux. Nous reconnaissions même très bien la ville de Nyon. Les montagnes du Faucigny s'abaissaient peu à peu devant nous. L'aiguille percée du reposoir fut celle qui nous résista le plus longtemps parce qu'elle était près de nous et que sa cime se projetait sur un horizon éloigné. Car nous ne tenions pour vaincus que celles par-dessus lesquelles nous pouvions voir le Jura. Chaque victoire de ce genre était un sujet de joie pour toute la caravane, car rien n'anime et n'encourage comme la conscience de ses progrès. Après avoir atteint les rocs, on s'en éloigne d'abord pour monter en serpentant dans un vallon rempli de neige qui va du nord au sud jusqu'au pied de la plus haute cime. Ces neiges sont coupées de loin en loin par d'énormes et superbes crevasses. Quelle que soit la largeur de ces crevasses, on ne peut nulle part en découvrir le fond. Après une heure de marche, nous vîmes côtoyer une immense crevasse. Dans un moment où nous nous reposions tous debout sur son bord en admirant sa profondeur et en observant les couches de ses neiges, mon domestique, par je ne sais quelle distraction, laissa échapper le pied de mon baromètre qu'il tenait à la main. Ce pied glissa avec la rapidité d'une flèche sur la paroi inclinée de la crevasse et alla se planter à une grande profondeur dans la paroi opposée où il demeura fixé en oscillant comme la lance d'Achille sur la rive du Scamandre. J'eus un mouvement de chagrin très vif, parce que ce pied servait non seulement au baromètre, mais à une boussole, à une lunette et à divers autres instruments qui se fixaient au-dessus. Mais au moment même, quelques-uns de mes guides, sensibles à ma peine, m'offrirent d'aller le reprendre, et comme la crainte de les exposer m'empêchait d'y consentir, ils me protestèrent qu'ils ne couraient aucun risque. Au moment même, l'un d'eux se passa une corde sous les bras, et les autres le calèrent ainsi jusqu'au pied du baromètre qu'il arracha et rapporta en triomphe. J'eus une double inquiétude pendant cette opération. Premièrement, celle du danger du guide suspendu. Ensuite, comme nous étions en vue et en face de Chamonix, d'où avec la lunette on pouvait suivre tous nos mouvements, je pensais que, si dans ce moment on avait les yeux sur nous, on croirait à ne pas en douter que c'était un de nous qui était tombé dans la crevasse et qu'on allait le reprendre. J'ai su depuis qu'heureusement, dans ce moment-là, on ne nous regardait pas. Nous fûmes obligés de traverser cette même crevasse sur un pont de neige rapide et dangereux, après quoi, par une pente de neige encore très rapide, nous abordâmes à l'un des derniers rochers de la chaîne isolée, où je couchais le surlendemain en revenant de la cime, et que par cette raison je nommais le rocher de l'heureux retour. Nous y arrivâmes à 1h30, et nous dînâmes au soleil avec bien de l'appétit. Mais nous regrettions de n'avoir pas d'eau, lorsque les guides imaginèrent un moyen fort ingénieux pour nous en procurer. Ils lançaient de grosses pelotes de neige contre des rochers exposés au soleil. Une partie de la neige s'y attachait, se fondait contre le rocher réchauffé, et nous recueillions l'eau qui venait goutte à goutte distiller à son pied. Il se relayait pour lancer de la neige, et il s'établit en peu de moments une fontaine qui nous fournit autant d'eau que nous pouvions en désirer. Ce rocher isolé au milieu des neiges était pour mes guides un lieu de délices, une île de Calypso. Ils ne pouvaient pas se résoudre à le quitter et voulaient absolument y passer la nuit. Ces rochers sont encore de 600 ou 700 toises plus bas que la cime. Je voulais m'élever davantage. Pour cela, il fallait aller camper au milieu des neiges, et c'est à quoi j'eus beaucoup de peine à déterminer mes compagnons de voyage. Ils s'imaginaient que pendant la nuit, il règne dans ces hautes neiges un froid absolument insupportable, et ils craignaient sérieusement d'y périr. Je leur dis enfin que pour moi j'étais déterminé à y aller avec ceux d'entre eux dont j'étais sûr, que nous creuserions profondément dans la neige, qu'on couvrirait cette excavation avec la toile de la tente, que nous nous y enfermerions tous ensemble, et qu'ainsi nous ne souffririons point du froid, quelque rigoureux qu'il pût être. Cet arrangement les rassura, et nous allâmes en avant. De là, en 35 minutes de montée, nous atteignîmes le premier grand plateau de neige qui se présente sur cette route. À notre gauche était l'aiguille du Midi qui commençait à s'abaisser sensiblement. À notre droite, le dôme du Goûter. La sommité de ce dôme, coupée presque à pic de notre côté, couverte d'une voûte de neige demi-circulaire comme l'arche d'un pont, et couronnée par une suite de ces énormes blocs de neige de forme cubique que j'ai nommé Sérac, présentait le plus singulier et le plus magnifique spectacle. Devant nous était la cime du Mont Blanc, le but de notre voyage, encore prodigieusement élevé à nos yeux. À sa gauche, les rocs que nous nommons ces escaliers et de superbes coupures de neige vive qui, éclairées par le soleil, paraissaient d'un éclat d'une vivacité singulière. Nous mîmes 20 minutes à traverser ce plateau, et ce temps nous parut bien long, parce que depuis le dernier voyage de Jacques Balma, il avait été balayé dans toute sa largeur par 2 énormes avalanches de sérac détachées du dôme du Goûter. Nous fûmes obligés de passer au travers de ces avalanches avec la crainte d'en essuyer de nouvelles. De ce plateau, nous montâmes pendant près d'une heure par une pente de 34 degrés, et nous atteignîmes ainsi le second plateau où nous devions passer la nuit. Il y eut d'abord de longues et sérieuses délibérations sur le choix de l'endroit où l'on placerait la tente, sous laquelle nous devions tous nous réunir pour être à l'abri du froid de la nuit, dont les guides se formaient une idée si effrayante. Outre le froid, nous avions à éviter 2 dangers, dont l'un venait d'en haut, l'autre d'en bas. Il s'agissait de choisir une place où nous ne pussions pas être atteints par les avalanches qui pouvaient partir des hauteurs, et où il n'y eut pas lieu de suspecter quelques crevasses cachées par des neiges superficielles. Les guides frémissaient de l'idée que ces neiges, chargées du poids de 20 hommes réunis dans un petit espace et ramollis par la chaleur de leur corps, pouvaient s'affaisser tout d'un coup et nous engloutir tous ensemble au milieu de la nuit. Une crevasse épouvantable que nous avions côtoyée en montant sur ce même plateau et qui pouvait se prolonger au-dessus prouvait au moins la possibilité de cette supposition. Cependant, nous trouvâmes à 150 pas de l'entrée du plateau une place qui nous parut bien à l'abri de tous ces dangers. Mes guides se mirent d'abord à excaver la place dans laquelle nous devions passer la nuit. Mais ils sentirent bien vite l'effet de la rareté de l'air. Ces hommes robustes, pour qui 7 ou 8 heures de marche que nous venions de faire ne sont absolument rien, n'avaient pas soulevé 5 ou 6 pelletées de neige qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de continuer. Il fallait qu'ils se relayassent d'un moment à l'autre. L'un d'eux, qui était retourné en arrière pour prendre dans un baril de l'eau que nous avions vue dans une crevasse, se trouva mal en y allant, revint sans eau et passa la soirée dans les angoisses les plus pénibles. Moi-même, qui suis si accoutumé à l'air des montagnes, qui me porte mieux dans cet air que dans celui de la plaine, j'étais épuisé de fatigue en observant mes instruments de météorologie. Ce malaise nous donnait une soif ardente, et nous ne pouvions nous procurer de l'eau en faisant fondre de la neige, car l'eau que nous avions vue en montant se trouva gelée quand on voulut y retourner. Et le petit réchaud à charbon que j'avais fait porter servait bien lentement 20 personnes altérées. Du milieu de ce plateau, renfermé entre la dernière cime du Mont Blanc au Midi, ses hauts gradins à l'est et le dôme du Goûter à l'ouest, on ne voit presque que des neiges. Elles sont pures, d'une blancheur éblouissante, et sur les hautes cimes elles forment le plus singulier contraste avec le ciel presque noir de ces hautes régions. On ne voit là aucun être vivant, aucune apparence de végétation. C'est le séjour du froid et du silence. Lorsque je me représentais le docteur Paccard et Jacques Balma arrivant les premiers au déclin du jour dans ces déserts, sans abri, sans secours, sans avoir même la certitude que les hommes puissent vivre dans les lieux où ils prétendaient aller, et poursuivant cependant toujours intrépidement leur carrière, j'admirais leur force d'esprit et leur courage. Après quelques moments de repos, Marie Coutet et 2 autres allèrent examiner l'état de la pente rapide que nous avions à gravir le lendemain. Ils revinrent satisfaits d'avoir trouvé, comblés par les neiges, une crevasse qui dans le précédent voyage leur avait donné assez de peine à traverser. mais la pente par laquelle nous devions monter leur avait paru bien rapide, et d'une neige bien dure et bien glissante, et je vis clairement qu'ils doutaient que je pusse y monter. Sur les montagnes dégagées de neige et dont la hauteur n'excède pas 1000 à 1 200 toises, il est très agréable d'arriver de bonne heure à son gîte. La fraîcheur du soir délasse des fatigues de la journée. On s'assied sur l'herbe ou sur un rocher, on s'amuse à observer les dégradations de la lumière et les accidents qui accompagnent presque toujours le coucher du soleil et le crépuscule. Mais dans les montagnes très élevées et couvertes de neige, ces fins de journée sont extrêmement pénibles. On ne sait où se tenir. Si l'on reste tranquille, on est transi de froid et la fatigue, jointe à la rareté de l'air, vous ôte la force et le courage de vous échauffer par l'exercice. C'est ce que nous éprouvâmes dans cette station où nous étions arrivés vers les 4 heures. Nous gelions tous de froid. On attendait avec une extrême impatience que la tente fût dressée. Dès qu'elle le fut, tout le monde se jeta dedans, et bientôt le babil des guides et les nausées de ceux qui avaient mal au cœur me forcèrent à en sortir. Je pressai le souper le plus qu'il fut possible. Ensuite, on eut beaucoup de peine à s'arranger de manière à entrer tous sous la tente dans une attitude où l'on put passer la nuit. Ils me permirent de me coucher dans un angle, mais pour eux, ils ne purent que s'asseoir sur de la paille, entre les jambes les uns des autres, et l'air, vicié par la respiration de 20 personnes entassées dans un si petit espace, nous fit passer une mauvaise nuit. Mes guides, toujours préoccupés de la crainte du froid, fermèrent si exactement tous les joints de la tente que je souffris beaucoup de la chaleur et de l'air corrompu par notre respiration. Je fus obligé de sortir dans la nuit pour respirer. La lune brillait du plus grand éclat au milieu d'un ciel d'un noir d'ébène. Jupiter sortait tout rayonnant aussi de lumière de derrière la plus haute cime à l'est du Mont Blanc, et la lumière, réverbérée par tout ce bassin de neige, était si éblouissante qu'on ne pouvait distinguer que les étoiles de la première et de la seconde grandeur. Nous commencions enfin à nous endormir lorsque nous fûmes réveillés par le bruit d'une grande avalanche qui couvrit une partie de la pente que nous devions gravir le lendemain. À la pointe du jour, le thermomètre était à 3 degrés au-dessous de la congélation.